Voici donc un nouveau numéro de Wagon Livre. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Nous vous proposons ce soir le deuxième volet du compte-rendu de la 15e fête du livre qui s'est tenue les 14 et 15 avril dernier à Autun. La semaine passée, dans Wagon Livre, nous avons donné la parole aux auteurs publiés chez des éditeurs bourguignons. Ce soir, je vous propose d'entendre des figures plus connues ou plus médiatisées. Nous allons d'ailleurs ouvrir ce 70e numéro de votre émission littéraire avec la célèbre animatrice de la rubrique des 4 vérités de l'émission Télématin sur France 2. Elle a longtemps été la présentatrice du journal télévisé de France 2. Son dernier livre, Ne vous taisez plus, nous interpelle sur l'ouragan de réactions sexistes, misogynes, ouragan de réactions de caste qui a suivi le séisme de l'affaire DSK. Voici Françoise Laborde au micro de Wagon Livre.
Moi, je ne me prononce pas sur l'affaire Strauss-Kahn en tant que telle. Ce qui nous a interpellés, Denise et moi, c'est à l'occasion de cette affaire de voir à quel point en France, la réaction était en effet invraisemblablement indulgente à l'égard de l'évocation, encore une fois, il s'agit de l'évocation d'un crime sexuel. Et en France, on est dans un pays où on a beaucoup de sévérité à l'égard de plein d'autres crimes. Mais le crime sexuel, on a une forme d'indulgence par rapport à ça. Comme si, au fond, c'était moins grave qu'autre chose. C'était moins grave de s'en prendre à une femme que d'avoir des comportements qui sont inappropriés. C'est-à-dire qu'on continue à penser qu'un homme, quel qu'il soit, encore une fois, je ne porte pas de jugement sur l'affaire en tant que telle, mais un homme qui a des comportements inappropriés, et plus qu'inapproprié, criminel à l'égard des femmes, ça ne met pas en cause sa capacité éventuelle à diriger un pays. Mais que ne dirait-on si cet homme avait agressé, je ne sais pas moi, des sans-papiers, enfin n'importe quelle autre catégorie de la population, on dirait que c'est épouvantable. Mais comme il ne s'agit que de femmes, on trouve qu'au fond, ce n'est pas si grave. Et moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est l'indulgence dont on faisait preuve à l'égard de ce crime. Quand on entend « il n'y a pas mort d'homme, ça n'est qu'un troussage de domestiques », on se dit mais dans quel pays sommes-nous, quoi ?
Ce sont les socialistes amis de Strauss-Kahn qui ont dit ça. Les gens de droite ont été plus corrects.
Non, mais à la limite, ce qui est grave, c'est que justement cette affaire soit tout de suite politisée. On s'en fiche de savoir si c'est les socialistes ou pas les socialistes, des gens de droite ou des gens de gauche. Ce qui est grave, c'est que c'est un crime contre une personne. Et moi, ce que je trouve de très révélateur, c'est qu'au fond, cette espèce d'indulgence française correspond à une réalité sociale qui est très grave, qui est l'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes en France. On est au 127e rang mondial, derrière le Kenya et le Kazakhstan. On devrait avoir honte de ça. En matière de représentation nationale, on est derrière l'Iran. Il y a plus de femmes élues en Iran qu'en France. Enfin, en proportion de la population, qu'on est vraiment dans un pays complètement archaïque. Partout dans le monde, on dit la place des femmes est un critère de développement. Je suis d'accord. Eh ben, nous, en France, encore une fois, on est à la remorque. Et je trouve dramatique en France, qui s'enorgueillit d'être le pays des droits de l'homme, on considère normal qu'il y ait la moitié de la population qui soit, entre guillemets, maltraitée. Et que ça fait toujours rigoler tout le monde de savoir que quand une femme est harcelée, on dit oui, mais au fond, elle l'a bien cherchée. C'est que quelque part, elle l'a voulu. Et ça, c'est gravissime. C'est comme quand on disait des enfants dans les affaires de pédophilie, je veux dire, on reste encore de ce point de vue en France au Moyen-Âge.
Voilà. Alors on comprend effectivement le titre de cet opuscule, Ne vous taisez plus, qui est donc un cri d'indignation.
Oui, et qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, parce que je crois qu'en matière d'égalité, c'est pas quelque chose... Je veux dire, toute la population doit être concernée par ça, les hommes aussi bien que les femmes, et je crois que vraiment il est temps qu'on se réveille.
Alors, faisons encore un peu de bruit avec votre roman,
oui,
qui a pour titre « Une histoire qui fait du bruit ». Est-ce que je peux vous demander de nous le présenter, François?
Alors, ça se passe, c'est un roman qui se passe dans les milieux de la télévision. C'est l'histoire d'une journaliste qui fait une enquête sur une thématique qui va l'emmener plus loin qu'elle n'imaginait, qui est l'histoire des trains de la déportation pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle va se retrouver, là encore, confrontée à un tabou de l'histoire qui consiste à considérer qu'il n'y a pas eu de collaboration de la part de la SNCF et que personne n'ose dire jamais que, bah, ma foi, les trains, ils ont quand même été conduits par des cheminots français et que les déportés sont pas allés à pied à Auschwitz. Voilà. Et donc, elle va se retrouver en butte à une immense polémique et ça va largement bouleverser toute sa vie.
C'était le 15 avril dernier à Autun, Françoise Laborde, à notre micro. Il était une des têtes d'affiche de cette 15e fête du livre organisée par les bénévoles de l'association Lire en pays autunois. Animateur et journaliste sportif, caricaturé au guignol de l'info, Nelson Montfort présente une toute autre facette de sa personnalité puisqu'il signe avec l'aquarelliste Philippe Lorrain un album consacré au poète-chanteur Jean Ferrat. Nelson Montfort raconte le compagnon de route de Louis Aragon et nous explique comment est née cette passion pour celui qui disait l'amitié, l'amour, la fraternité, la beauté du monde.
Alors, histoire d'amour, c'est le mot parce que c'est un artiste qui a accompagné toute ma jeunesse, toute mon adolescence, toute ma vie, à dire vrai. Et voilà, je souhaitais lui rendre hommage, surtout après l'avoir rencontré chez lui, donc à Entraigues, en Ardèche. J'ai rencontré un homme dont la personnalité était à la hauteur de l'œuvre. Ce n'est pas toujours le cas dans ce que vous avez très justement appelé le showbiz. Quelquefois, les rencontres avec les artistes qui vous émeuvent beaucoup sur disque ou sur scène peuvent s'avérer décevantes. Avec Jean, pas du tout. J'ai rencontré un homme d'une élégance rare et je dirais que son élégance n'était pas seulement physique et vestimentaire, son élégance était intérieure. Et j'ai voulu rendre hommage au Jean Ferrat que j'ai connu avec donc mon ami aquarelliste Philippe Lorrain, à travers ce livre où il y a 20 chapitres, où chaque chapitre porte le titre d'une chanson. Je suis bien sûr allé vers ces chansons les plus connues, il y en a énormément comme vous le savez, mais je voulais également faire découvrir le Jean Ferrat que j'ai connu à travers certaines chansons peut-être un peu moins connues mais qui illustrent parfaitement sa vie. Je pense notamment à une merveille qui s'appelle Nul ne guérit de son enfance, bien d'autres aussi. Et voilà,
d'après Aragon, je crois.
Alors, dans l'œuvre de Jean Aragon, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean Ferrat a composé les musiques de toutes ses chansons. Musique et fait les orchestrations. Les orchestrations sont vraiment magnifiques, comme vous le savez. Il y a certaines chansons, certaines mélodies qui passent presque passer pour de la musique symphonique, tellement elles sont belles. Il a écrit à peu près la moitié des textes de ses chansons et, comme vous le dites très justement, il a mis en musique pour bonne partie des poèmes d'Aragon, voire même des poèmes ou en tout cas des chansons de jeunes auteurs que personne ne connaissait. On lui envoyait des textes, on lui envoyait beaucoup de textes. Et lorsqu'il avait un coup de cœur pour un texte, je pense notamment à Guy Thomas, qui est un poète beaucoup moins connu évidemment que Louis Aragon, eh bien il le mettait en musique avec beaucoup de bonheur.
Vous auriez aimé, Nelson Montfort, écrire des paroles qui serait devenu
j'aurais aimé certainement, mais je n'en ai sûrement pas le talent. J'ai beaucoup trop de respect pour l'œuvre de gens comme du reste d'autres poètes de la chanson française. Je pense notamment à Charles Trenet ou Georges Brassens, mais qui du reste ont côtoyé, influencé, ils se sont influencés les uns les autres. Pour moi, je vous cite comme ça Charles Trenet, Georges Brassens, Jean Ferrat. Pour moi, là nous ne sommes pas loin d'une sorte de sainte trilogie de la chanson française. Il y en a d'autres, mais c'est pas le premier salon du livre que je fais. J'en ai fait 4 ou 5 et je m'aperçois que Jean Ferrat reste encore aujourd'hui, 2 ans après sa mort, vous l'avez dit, l'un des artistes préférés des Français, si ce n'est l'artiste préféré des Français.
Vous n'êtes pas sans ignorer, Nelson Montfort, que les chansons de Ferrat ont une teinte politique.
Oui, alors
vous adhérez à ce discours presque pré-écologique que la montagne est belle, cette désertification des campagnes, cette dénonciation d'une société qui abîme l'homme, abîme la nature. J'imagine que vous adhérez à la
J'adhère à... Quand j'ai rencontré Jean, qui était loin d'être bête, il s'est rendu compte que je ne partageais pas nécessairement ses convictions. On va le dire, proche du Parti communiste, même si il n'a jamais été véritablement adhérent du Parti communiste. Et d'ailleurs, il est revenu pas mal Il est même beaucoup revenu,
comme beaucoup d'autres,
d'un certain nombre d'engagements, etc. Voilà. Mmh. Donc de chanson qui s'appelle Le Bilan, enfin chanson qui s'appelle Camarade, il en est beaucoup revenu. Et moi, le Jean Ferrat que j'ai connu, Jean Ferrat de fin de vie, était beaucoup revenu sur ses engagements politiques, mais pas sur ses engagements, je dirais, philosophiques. Et sur cet idéal qu'il a effectivement accompagné tout au long de sa vie. Et cet idéal, en revanche, de justice, de paix, je le partage complètement.
Alors, on peut dire que Ferrat reste d'une grande actualité.
Oui, oui. Et vous, j'ai beaucoup aimé votre terme pré-écologique, oui. D'ailleurs, il faut savoir, en m'intéressant à Jean, et je me suis vraiment beaucoup intéressé, évidemment, pour publier ce livre, deux tiers des chansons de Jean Ferrat sont poétiques. Un tiers, on peut dire, est politique. Mais, et notamment le Jean Ferrat des deux derniers albums que je recommande vivement à vos auditeurs, Ferrat 91 et Ferrat 95, ne sont pas du tout des CD politiques, ou très peu. Il était revenu vers la fin de sa vie, vers une verve poétique et musicale absolument superbe.
Sans que je puisse m'en défaire, le temps met ses jambes à mon cou. Le temps qui part en marche arrière me fait sauter sur ses genoux. Mes parents l'été et les vacances, mes frères et sœurs faisant les fous. J'ai dans la bouche l'innocence des confitures du mois d'août. D'une guérie de son enfance. D'une guérie de son enfance. Les napperons et les ombrelles qu'on ouvrait à l'heure du thé pour rafraîchir les demoiselles roses dans leur robe d'été. Et moi, le nez dans leur dentelle, je respirais à contre-jour dans le parfum des mirabelles, l'odeur troublante de l'amour. D'une guérie de son enfance. D'une guérie de son enfance. Le vent violent de l'histoire allait disperser à volo notre jeunesse dérisoire, changer nos rires en sanglots. Amour orange, amour amer, l'image d'un père évanoui qui disparut avec la guerre renaît d'une force inouïe. Nul ne guérit de son enfance. Nul ne guérit de son enfance. Celui qui vient à disparaître, pourquoi l'a-t-on quitté des yeux? On fait un signe à la fenêtre sans savoir que c'est un adieu. Chacun de nous a son histoire et dans notre cœur à l'affût, le va-et-vient de la mémoire ouvre et déchire ce qu'il fut. D'une guérie de son enfance. D'une guérie de son enfance. Belle, cruelle et tendre enfance, aujourd'hui c'est à tes genoux que j'en retrouve l'innocence au fil du temps qui se dénoue. Ouvre tes bras, ouvre ton âme, que j'en savoure en toi le goût. Mon amour frère, mon amour femme, le bonheur d'être et le temps doux. Pour me guérir de mon enfance, de mon enfance. Pour me guérir de mon enfance, de mon enfance.
Pour contacter Radion, 03 86 46 50 50. Radion.
Vous avez reconnu Jean Ferrat sur votre radio locale. C'était « Nul ne guérit de son enfance ». Suite du compte-rendu de la 15e fête du livre d'Autun, une manifestation régionale avec un écho national, un salon du livre né en 1996 sous l'impulsion de Rémy Rebeyrotte et du journaliste et romancier Didier Cornaille. Rémy Rebeyrotte d'ailleurs est actuellement maire de la ville d'Autun. Un coup d'œil sur l'émission de mercredi prochain, 16 mai à 21h. Nous y accueillerons Lucette Desvignes, qui était présente à Autun les 14 et 15 avril dernier. Eh bien, Lucette Desvignes sera devant notre micro mercredi prochain pour évoquer son dernier recueil, paru aux éditions de Bourgogne, recueil qui a pour titre « Nouvelles à chuchoter au crépuscule ». Je vous propose cette fois de partir à la rencontre de Jacqueline Monsigny, romancière, scénariste, actrice et animatrice de télévision. Nous l'avions rencontrée en octobre 2010 au Festilivre de Moneto. Eh bien, à Autun, Jacqueline Monsigny est venue présenter son dernier roman, La sirène du Pacifique, l'histoire d'une jeune Française au cœur de la guerre du Pacifique.
Oui, alors là encore, ce sont des souvenirs certainement d'enfance qui me sont remontés. Mon éditeur m'a dit « Avez-vous une idée pour votre prochain livre ?» J'ai dit « Vaguement, mais je ne suis pas encore fixée. » parce que depuis un certain temps, je repensais beaucoup à mon père, que j'ai malheureusement perdu, bien entendu. Je me souvenais que dans son bureau, pendant la guerre, il était lui-même un ancien officier de la guerre de 14. Alors, il avait deux cartes. Il avait la carte de l'Europe. Il mettait des petits drapeaux pour montrer l'avancée des forces alliées vers Stalingrad. C'était évidemment le grand... Et puis, il y avait l'autre carte. C'était une carte du Pacifique, l'océan Pacifique. Et alors, là aussi, avec des petites épingles pour montrer l'avancée. Alors, dans l'autre sens, si vous voulez, des Américains qui essayaient de reprendre le Pacifique aux Japonais. Et ça me fascinait. Et je disais à mon père, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ben ça, c'est l'île de Guadalcanal. Il s'est passé... Parce qu'il écoutait tout le temps la radio anglaise pour savoir ce qui se passait. Et alors, j'ai repensé à ça. Et je me suis dit, parce que j'avais lu aussi qu'il y a eu 50 000 femmes qui se sont engagées dans la guerre du Pacifique, dans les personnels soignants.
Alors c'est le cas de votre héroïne,
voilà,
qui a un prénom, mon Dieu, c'est Océane.
C'est un beau nom.
Ah hein. Bah oui. Bah et oui. Alors cette Océane, donc elle est à Nouméa et...
Ah oui, elle est
Nouvelle-Calédonie.
Elle est une Française, une jeune Française de Nouvelle-Calédonie. Logiquement, elle devrait avoir une vie très calme, mais évidemment, son grand-père va l'emmener passer son anniversaire à Hawaï, ce qui est tout à fait normal. Bon, ils ont pris un bateau. Le Pacifique est encore en paix. Et puis, quand ils arrivent là-bas, eh bien, le matin de son anniversaire à elle, parce qu'elle est née le 7 décembre 1925, et là, nous sommes le 7 décembre 1941, elle attend tous les cadeaux, elle entend un bruit d'avion, elle lave la main pour applaudir l'avion, et ce sont les premiers tirs des Japonais. J'ai mis ça parce que j'avais lu que tous les Américains qui voyaient les avions japonais arriver n'ont pas eu peur du tout. Ils applaudissaient les avions, ils croyaient que c'était une démonstration. Et il va y avoir tous ces morts, donc 1500 morts dans le port de Pearl Harbor. Donc sa jeunesse démarre d'une façon a priori très dramatique. Et elle va s'engager dans les personnels soignants.
Elle choisit l'audace,
elle choisit l'audace.
La solidarité, l'entraide.
Absolument, complètement.
Une héroïne généreuse.
Oui, mais je vous dis, il y a eu 50 000 femmes qui l'ont fait. C'est énorme. Et 25 000 ont disparu dans les batailles monstrueuses qui ont lieu. Et elle va survivre, évidemment.
Alors, Jacqueline Monsigny, vous êtes l'épouse de l'acteur américain Edward Mix, qui est un peu plus loin.
Oui,
Edward, il est resté au stand. Les États-Unis, c'est une histoire d'amour aussi avec ce pays. Vous avez connu... Vous avez côtoyé Elizabeth Taylor.
Ah oui, absolument. Nous l'avons bien connue, Elizabeth Taylor. C'est parce que Edward a tourné avec son mari. Voilà. Et alors,
Richard Burton. Enfin, il y en a eu plusieurs.
Oui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est toujours Richard Burton qui est quand même le principal. Et pour elle aussi. Pour elle, nous avons toujours pensé qu'ils avaient donc divorcé deux fois, eux-mêmes, entre eux. Et nous avons toujours pensé, Edouard et moi, que si Richard avait vécu, ils se seraient remariés encore parce qu'ils ne trouvaient personne qui allait. En fait, ils se disputaient quand ils étaient ensemble, mais quand ils n'étaient plus ensemble, ils étaient malheureux. Alors, ils ne pouvaient pas vivre l'un sans l'autre, ils ne pouvaient pas vivre l'un avec l'autre.
C'est ça la passion.
Mais en vieillissant, je pense qu'ils se seraient un peu calmés.
Des souvenirs, quelques petits souvenirs comme ça, marquants sur Elizabeth Taylor.
C'est une femme pour qui j'avais beaucoup d'admiration. D'abord, c'était une immense actrice. On l'a peut-être pas assez dit parce qu'on a souvent on a parlé des scandales, des bagarres, du fait qu'avec Richard il buvait trop. Bon, peut-être qu'il buvait trop, mais ça ne nous regarde pas. C'est pas quelque chose. On peut pas critiquer les gens là-dessus parce que ce qu'ils avaient d'extraordinaire tous les deux, c'est leur générosité. Ils étaient généreux dans le métier, ils étaient généreux avec les acteurs qui avaient du mal à réussir dans la vie. Ils aidaient tout le monde. Ils avaient une générosité d'âme et d'argent parce qu'ils étaient richissimes. Alors des gens me disent, ils avaient de l'argent. Mais il y a des gens qui ont de l'argent qui n'en donnent pas. Eux, ils n'arrêtaient pas de donner. Quand par exemple, ils voyaient qu'à l'époque, il n'y avait pas de sécurité sociale, en tout cas en Angleterre, et s'ils voyaient un technicien dont l'enfant aurait dû être opéré, par exemple, d'un pied beau, ce qui est une histoire vraie, ils ont dit tout de suite, ah mais on le prend en charge, on le fait opérer, et l'enfant a une jambe parfaite et tout. Vous voyez, et puis ils ne le faisaient pas d'une façon ostentatoire, hein, c'était vraiment, c'était en eux.
Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la télévision française à l'heure actuelle? Parce que vous avez été une figure de la télévision française.
Oui.
Vous avez été, comment disait-on à l'époque, speakerine?
Non, j'ai jamais été speakerine. J'étais...
présentatrice?
D'abord, j'ai fait beaucoup d'abord de pièces de théâtre. Ça s'appelait des dramatiques à l'époque. Alors les dramatiques, c'était des pièces de théâtre adaptées pour la télévision et que l'on jouait en direct à l'ORTF, c'était... Et puis, un peu à peu, ça s'est un peu transformé puisque j'ai des amis metteurs en scène qui m'ont dit « Ah, mais écoute, t'as du bagou, tu parles facilement, il faudrait absolument... » On nous fait un beau transport de livres hein, en ce moment. tu devrais faire de la présentation. Et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de présentations d'émissions de variété. J'aimais beaucoup ça. J'ai présenté des quantités de chanteurs comme Dalida, comme Guy Béard. J'étais amie avec lui. Et puis, comment est-ce que je suis tombée dans l'écriture, si j'ose dire? Il y a eu le mois de mai 1968. Tous ceux qui travaillaient à la télévision, on s'est retrouvés sur le sable. Tout était fermé. Il y avait plus. C'était la grève générale. Et j'avais toujours dit, si j'ai du temps, je voudrais écrire. Et là, je me suis dit, ma fille, t'as du temps. C'était l'été, puisque c'est mai 68, ça a duré tout l'été. Lance-toi, tu vas bien voir si tu es capable d'écrire. Parce que je ne savais pas si j'étais capable d'écrire. Et j'ai mis chapitre premier, et j'ai commencé mon roman « Fleurisse mon amour ». Alors, aux innocents, les mains pleines, mon livre a eu du succès. Il a été publié chez Grasset. On m'en a demandé un deuxième, un troisième. Entre-temps, j'avais rencontré Édouard, qui est devenu mon mari. Et voilà, et au quatrième livre, j'ai dit, il faut que j'arrête, ou j'arrête la télé, ou j'arrête l'écriture, mais je ne peux pas continuer, parce que, attention, j'avais deux fils, je les ai toujours, mais à ce moment-là, c'était des enfants, il fallait s'en occuper, voilà, donc...
Une quarantaine de romans,
je crois même à l'heure actuelle. Je crois même que c'est 45.
45 romans, oui, vous ne savez plus exactement, en fait,
vous-même. Je pense, il faudrait que je lise sur la liste exactement pour calculer.
Et donc, on rappellera le dernier en date aux éditions de l'Archipel, La Sirène du Pacifique de Jacqueline Monsigny. Merci, Jacqueline, de votre gentillesse.
Merci
et
à vous.
Et de répondre toujours présent à mes petites interviews.
Merci, vous avez beaucoup de talent comme journaliste et j'aime beaucoup vos questions.
Merci, Jacqueline Monsigny.
Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, 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 je ne veux pas prendre l'air. Non, 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 je ne veux pas boire un verre. Non, 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 je ne veux pas l'oublier. Non, 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 je ne veux pas m'en passer. quoi ça sert de faire un tour? Non, je ne veux pas me défaire de ce si bel enfer qui commence à me plaire. Je ne veux pas quitter mon salon. Non, 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 non. Aller mieux. Non, je ne veux pas m'habiller, non plus me maquiller. Laissez-moi m'ennuyer. Arrêtez avec vos questions. Non, non.
Au cœur de la Bourgogne.
Les 14 et 15 avril derniers, au printemps, se tenait le Salon du Livre d'Autun. Cette année, cette manifestation régionale organisée par l'association Lire en Pays Autunois fêtait sa 15e édition. Romancière et scénariste née à La Havane, à Cuba, elle est l'auteur de nombreux ouvrages traduits en français, des romans dont Danse avec la vie en 2009. Il s'agit de Zoé Valdés et nous avons eu le plaisir de pouvoir nous entretenir avec elle. Son dernier roman est la suite lointaine du Néant quotidien dont la publication en France en 1995 lui avait valu l'exil pour insoumission au régime castriste. Zoé Valdés commente le titre de son dernier roman, Le paradis du néant.
Oui, c'est une métaphore et c'est une métaphore ironique parce que ça a à voir avec ce qui va vivre ce personnage de Yocandra qui était le personnage de mon deuxième roman, Le Néant quotidien qui était publié chez Actes Sud en 95. Et c'est une histoire d'exil, mais c'est une histoire d'amour surtout et c'est une histoire de plusieurs formes d'exil aussi et de rencontres avec d'autres façons de vivre, d'autres, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit s'intégrer et comment on doit vivre. Parfois c'est drôle, parfois c'est très dur, évidemment, la plupart des fois c'est très très dur.
Zoé Valdés, vous avez connu l'exil?
Oui, je suis toujours en exil.
Vous êtes toujours en exil?
Oui.
Vous êtes donc née à Cuba, vous êtes cubaine et vous avez la nationalité française?
J'ai obtenu la nationalité française une fois que j'ai eu la résidence européenne par l'Espagne, c'est-à-dire je n'ai pas réussi à avoir l'asile politique en France, mais je suis restée en France parce que j'aime beaucoup votre culture, j'aime beaucoup, déjà c'est une partie de ma culture, parce qu'il y a une partie de Cuba où il y a eu pas mal de gens qui venaient, pas directement de la France, mais aussi qui parlaient français, qui étaient des Français.
Alors vous parlez très bien français, mais vous n'écrivez pas en français, tous vos romans sont traduits de l'espagnol.
Oui, mes romans sont traduits de l'espagnol par Albert Bensoussan et il y a eu d'autres traductrices aussi. Je n'ai pas encore publié en français, mais j'écris déjà en français. Mais je cherche évidemment un style d'écrivain parce que ce n'est pas la même chose d'écrire ce qui vous vient à la tête comme ça et de trouver, de se faire un style, de se créer un style d'écrivain.
De toute façon, vos romans sont très imprégnés de votre propre parcours. L'exil, et puis j'imagine aussi toutes les questions que nous nous posons tous par rapport à l'amour, aux sentiments, aux questions qui ont un lien étroit avec la vie et peut-être aussi la sérénité, la quête du bonheur.
Oui, oui, la sérénité, la solitude de l'écrivain aussi, qui est très important, parce que et parfois on parle d'une façon directe de ce qu'on a vécu en tant qu'écrivain, et on parle évidemment de la solitude, des moments qu'on est en train de chercher des sujets et qu'on les retrouve, qu'on commence à travailler sur ces sujets-là, mais il y a une solitude, que c'est cette solitude intime, personnelle, qui est comme n'importe quel autre, que ce n'est pas parce qu'on est écrivain qu'on la vit d'une autre façon. On la vit aussi avec la même violence parfois et avec la même tendresse aussi.
Zoé Valdez, quels sont les auteurs de la littérature française qui pour vous ont eu un rôle peut-être sur votre parcours d'écrivain et sur votre vie personnelle? Quels sont les auteurs anciens ou contemporains de France que vous aimez particulièrement?
Ah, il y a eu, évidemment, il y en a pas mal, mais il y a surtout François Rabelais que j'ai, avec la douleur du dollar, j'ai voulu lui faire un hommage en silence. Il y a évidemment d'autres grands écrivains, Patrick Modiano, il y a eu Marguerite Duras, Marguerite Yourcenar, qui était belge, mais qui a tous ces romans l'histoire, mais aussi l'amour, aussi la solitude et un grand langage, évidemment, une grande écriture, une grande plume. Et aujourd'hui, je dirais, je cite toujours Amélie Nothomb, parce que c'est un écrivain qui me fait beaucoup réfléchir et rire en même temps, et j'aime ça. Et évidemment, il y a l'Ecclésio, que j'aime beaucoup,
qui est un grand
écrivain, et puis des poètes, évidemment, Rimbaud et Mallarmé, qui est toujours...
Dont la poésie est difficile tout de même.
Oui,
la poésie Mallarmé,
oui,
elle est difficile.
Oui, oui, elle est difficile, mais j'ai toujours lu Mallarmé, j'ai toujours lu Baudelaire, pardon, et Verlaine. Pourquoi? Parce que ma grand-mère était à Cuba, elle était ce qu'on appelle en espagnol déclamadora, je crois que ça n'existait pas en français, déclamatrice, ça ne veut rien dire. Et elle vivait de dire la poésie. Alors elle, qui évidemment, elle pouvait le dire en anglais et en espagnol, parce qu'elle était d'origine irlandaise, mais elle ne pouvait pas, elle avait du mal à parler en français, mais quand même, elle essayait. Donc j'ai appris et Baudelaire avec un accent épouvantable, mais en français d'abord. Donc ma grand-mère disait, c'est ça, il était géant, m'empêchait de marcher, avec cet accent terrible. Et c'est celle des géants m'empêchent de marcher. Un vers qui est merveilleux, qui est très très bon.
Si je vous dis que l'inculture, je dis bien l'inculture, est en train de gagner du terrain en France, cela vous inquiète?
Cela m'inquiète beaucoup, mais ce n'est pas seulement en France. Je crois que c'est un phénomène très répandu, malheureusement, partout dans le monde. Il y a un grand écrivain péruvien et prix Nobel qui vient de publier un livre en Espagne avec ce sujet-là, qui s'appelle, le titre c'est « La culture de le spectacle ». Et il se pose des questions, il dit qu'est-ce qu'on va, par exemple, qu'est-ce qu'il va rester. Moi j'ai des livres, j'ai un livre signé par les fils de Carlos Manuel de Céspedes, c'est le premier homme qui a libéré ses esclaves à Cuba. Donc vous voyez le temps qui est passé depuis, et j'ai toujours ce livre. Alors qu'est-ce qui va rester à nos enfants? Est-ce qu'il y aura toujours, par exemple, la dédicace d'un écrivain, la voix d'un écrivain, la pensée d'un philosophe? Même si ce philosophe est un, je pense par exemple, un chanteur, un Aznavour, des chanteurs qui sont aussi des philosophes. Qu'est-ce qui va nous rester? Parce qu'on voit que justement le spectacle et les spectacles, malheureusement, la plupart des fois, en culture.
Zoé Valdez, vous pensez un jour que vous retournerez définitivement à Cuba?
Renouant
ainsi avec votre identité originelle.
Oui, je pense que oui. Mais j'ai réussi à vivre dans une partie de mon identité qui est aussi l'européenne, parce qu'il y a eu à Cuba des Français, des Chinois, des Irlandais, des Espagnols évidemment, et des Africains. J'ai aujourd'hui une nostalgie énorme de mon quartier, de la mer et tout ça, du Malecón, que tout le monde connaît. Mais je pense qu'un jour je vais rentrer et j'aurai la nostalgie de la Seine, de ce qui est mon pays aujourd'hui, qui est la France.
Quelle est votre impression sur cette 15e fête du livre à Autun ?
Toujours très très bonne, parce que c'est pour ça que je suis revenue encore une fois, parce que d'abord ils sont merveilleux, les gens qui travaillent ici, et puis les lecteurs, l'expérience est toujours très très belle, et c'est une très belle ville aussi, la cathédrale, il y a des endroits magnifiques, mystérieux.
Et des vestiges romains.
Oui, évidemment, oui. La bibliothèque historique, ce qui est magnifique.
Rappelons, Zoé Valdez, donc votre dernier roman aux éditions Jean-Claude Lattès, Le paradis du néant. Merci Zoé Valdez.
Merci à vous.
Tremble en cœur, et l'homme que ton cœur porte sans moi fort. Et si le combat prend fin, c'est sûrement parce qu'on t'a pris par la main. Et tout bas, tu me murmures que tout ce que j'aime, tu me l'assures. Et dans tes défaites, tu me promets qu'un nouveau jour est pour demain. Et doucement, tu me
son cœur vibre plus fort. Et les craintes qu'elle assemplifie, elle sait qu'une autre fut dans mon lit. Tout bas je lui murmure de calmer toutes ses inquiétudes. Et dans mes mensonges je lui rappelle qu'à mes yeux il n'y a plus qu'elle.
Et doucement tu me fais boire et plus douceur de plus notre idée avance, d'autres filles entrent dans la danse. Et doucement tu me fais voir le plus doux habitat du soir. Et plus notre idée avance, d'autres filles entrent dans la danse.
Radion. Radion.
Cœur de pirate. Étrange nom de scène pour une post-adolescente toute mignonne et toute fluette, c'est le nom d'artiste de Béatrice Martin que vous venez d'entendre à l'instant, accompagnée de Julien Doré pour nous interpréter Pour un infidèle. Des fidèles, vous l'êtes, c'est sûr et certain, c'est Wagon Livre, votre magazine littéraire, chaque mercredi à 21h sur votre radio locale. La suite, sans plus tarder, du compte-rendu de la 15e fête du livre d'Autun avec une jeune romancière. Alma Brami nous présente l'intrigue de son dernier roman, C'est pour ton bien, paru au Mercure de France.
Il s'agit d'une communauté religieuse, je ne cite absolument pas laquelle parce que peu importe. Une famille totalement respectable va vivre un véritable drame. Leur fille aînée va tomber enceinte. Elle n'a que 17 ans. Et comme l'avortement est interdit, ils ont extrêmement peur des rumeurs, du déshonneur, du regard des voisins. Ils vont faire en sorte de mener à bien cette grossesse dans la discrétion. Et ils espèrent faire une famille heureuse grâce à l'adoption. Mais l'héroïne va refuser. Et les parents donc vont décider d'acheter un appartement, d'exiler leur fille aînée avec le nouveau-né. Et c'est les 11 premières années de la vie de la petite fille avec sa maman et le fait qu'elles grandissent ensemble en fait. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était de travailler sur le fait de se construire contre une éducation, d'en créer une autre à sa manière. Et finalement, rien n'est vraiment bien.
Famille, je vous hais.
Famille, je vous aime finalement. Malgré tout.
Alors,
Qu'est-ce qui vous inspire, en fait? Où allez-vous puiser les intrigues de vos romans?
En fait, je commence toujours par une première phrase. Je ne sais pas où ça va me mener. Et il y a une première phrase qui m'entraîne forcément vers un personnage. Là, la première phrase, je ne sais plus laquelle c'est, mais je crois que un des premiers mots, c'est Charlotte, et c'était le prénom de la petite fille. Et donc, petit à petit, je découvre ce personnage. En fait, je lis comme si j'ai fait un lapsus. J'écris comme si je lisais.
La première phrase, c'est « Charlotte était un accident ».
Voilà, cette phrase est venue. Et donc, j'ai essayé de chercher, de creuser. C'est comme si cette phrase était un bloc de glaise et tout d'un coup, je découvrais à l'intérieur la sculpture.
Alma, il faut souligner que vous êtes très jeune. Vous n'avez pas 30 ans?
Non, pas encore. J'ai 26.
Déjà 4 romans.
Oui.
À côté de l'écriture, finalement, plusieurs cordes à votre arc.
Oui, alors je suis comédienne, enfin il paraît que je suis comédienne. C'est vrai que l'écriture a pris tellement de place que je me suis pas battue comme j'aurais dû pour atteindre ce que je voulais. Quand j'ai fait mon école, j'étais au cours Florent. Mais quand tout d'un coup il se passe quelque chose et qu'on me propose de jouer, je suis ravie de le faire. Et donc j'ai joué une pièce qui a été extraordinaire, c'était le monologue de Cocteau, La Voix Humaine, pendant 2 mois au Théâtre Ciné 13 à Paris, c'était fou. Et puis récemment j'ai joué dans un petit truc qui est en train de faire quasiment 400 000 vues sur YouTube, donc c'est pas mal aussi.
Et si je vous dis que la France est sur le point de basculer dans l'inculture, vous partagez mon inquiétude?
Tout à fait, je suis totalement de votre avis et... Et en même temps, comme j'ai la chance de rencontrer beaucoup d'enfants et d'aller dans les écoles, de parler de mes livres, d'aller dans les universités, dans les lycées, je me rends compte que la jeune génération, en fait, est quand même très avide d'absorber de la littérature, de la culture, et encore un enthousiasme. Donc tout n'est pas perdu.
Quels sont les auteurs et les romans qui ont marqué votre jeunesse et votre adolescence notamment?
Alors quelqu'un qui a été capital pour moi, c'est... le roman qui a été capital pour moi, c'est La vie devant soi, qui a été un livre clé pour moi.
C'est Gary ?
Bien sûr, de Gary, et toutes les nouvelles de Maupassant, L'Assommoir de Zola, qui a été extrêmement important pour moi, et en théâtre aussi, Agatha de Duras, qui est une pièce qui m'a forgée, et Combat de nègre et de chien de Koltès.
Donc c'est pour ton bien, roman d'Alma Brami. Alma, avant de nous séparer, une petite impression sur cette 15e fête du livre à Autun. La Bourgogne, c'est une région que vous connaissez un peu. Y avez-vous des attaches?
Alors je suis désolée, je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je viens à Autun. Et je suis très contente d'être venue. Et c'est vraiment une fête. Voilà, on ne dit pas salon du livre, on dit fête du livre ici.
C'est la fête du livre.
Et
oui.
C'est très agréable. C'est... J'ai passé 2 très beaux jours, j'ai rencontré d'autres auteurs adorables, j'ai rencontré beaucoup de lecteurs et on sent que les gens sont très intéressés de découvrir des auteurs qu'ils ne connaissent pas forcément. Donc je suis ravie et je reviendrai avec plaisir.
Alma Brami, à notre micro pour son dernier roman, C'est pour ton bien, paru au Mercure de France. Place cette fois-ci à l'histoire de France avec Raphaël Delpart. Raphaël Delpart est cinéaste, réalisateur et journaliste. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur l'Algérie, la Deuxième Guerre mondiale ou encore sur la guerre d'Indochine. Il a également travaillé sur la persécution des chrétiens dans le monde et présent à cette 15e fête du livre à Autun le 15 avril dernier, nous lui avons demandé de nous parler de son dernier ouvrage, La fabuleuse histoire du drapeau français, et d'évoquer donc les origines de notre beau drapeau tricolore.
Le drapeau s'est créé finalement au cours des 20 siècles. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que d'abord les 3 couleurs sont permanentes dans l'histoire de France. Évidemment, elles sont permanentes, mais elles ne sont pas rationnelles. C'est-à-dire qu'elles ne suivent pas un chemin classique, etc. Elles apparaissent, elles disparaissent, elles sont présentes, elles ne sont plus présentes, etc. Songez que le bleu, le blanc, le rouge étaient présents, par exemple, dans les tribus avant les Gaulois, les tribus dont on ne sait pas d'où elles venaient, mais qui se peignaient, ce qu'on appelle le drapeau sur peau, se peignaient le corps en bleu, en blanc, en rouge, et même parfois en bleu, blanc, rouge, enfin, pas forcément en bleu, blanc, rouge, mais en bleu, en blanc, rouge, enfin, peu importe l'ordre, avec des dessins d'oiseaux, des dessins d'animaux, pour se reconnaître, parce que dans cette immensité, ils avaient peur de se perdre et de ne pas retrouver leur tribu. C'est d'ailleurs pour ça que les Romains avaient le vexulum, c'est-à-dire un animal qui représentait telle unité, et lorsque le soldat dans les combats se trouvait perdu, il regardait où se trouvait le vexulum, c'est-à-dire l'image de son unité, et pouvait se repérer. C'est aussi comme ça, d'ailleurs, beaucoup plus tard, qu'est né le porte-drapeau sous Louis VI, dit le Gros. Voilà. Donc l'histoire du drapeau français est une histoire fabuleuse que j'ai découverte, c'est-à-dire qu'un jour je me trouvais sous l'Arc de Triomphe à Paris, et je recommande à tout Français, et enfin tous ceux qui le veulent, et qui veulent ressentir une émotion très forte, de se trouver un jour sous l'Arc de Triomphe lorsque le grand drapeau est déployé. Et là, c'est une émotion immense, car cet immense symbole qui vient vers vous, qui vous caresse. Moi, j'ai eu l'impression que le drapeau me parlait et qu'il me disait « raconte-moi, raconte mon histoire ». Et peut-être que j'ai dû un peu trop fumer ce jour-là ou trop bu, mais en tous les cas, je me suis pris au jeu. Pendant 10 ans, j'ai recherché dans les archives, j'ai traduit des textes du latin en français, j'ai traduit des textes du vieux français en français pour être compréhensible, etc. J'ai trouvé des archives extraordinaires sur le porte-drapeau, notamment, etc. La naissance des couleurs, pourquoi ces trois couleurs, et aussi la symbolique du drapeau. On s'aperçoit que l'homme vit avec le drapeau depuis la nuit des temps, car c'est le drapeau, ce signe qui a pris des formes différentes, eh bien, je viens de le dire, il a un langage entre l'homme et lui, un langage curieux, un langage visible, mais qui a des codes à partir du moment où l'homme met les codes.
Et alors, moi je me souviens que mon professeur d'histoire nous expliquait que le bleu, blanc, rouge, le blanc était la couleur de la royauté, et que le blanc était prisonnier du rouge et du bleu, qui étaient les couleurs de la ville de Paris.
Oui, c'est faux. Alors, le bleu a d'abord a été initié par Clovis. C'est la chape de Saint-Martin, la chape, c'est-à-dire la manteau de Saint-Martin qu'il a coupé en deux, qui était à l'époque, car Saint-Martin était un Hongrois, qui était engagé dans l'armée romaine, c'est-à-dire que la Rome n'avait pas d'armée, c'était des armées d'engagés en réalité. Il était Hongrois, son père était général, enfin, un grade très élevé, lui était simple soldat, et il a rencontré la foi du Christ, et il est devenu chrétien. Et à partir de là, entre autres choses, il y a cette fameuse histoire que tout le monde connaît, à Amiens, un soir d'hiver, il partage son manteau en deux, et c'est cette chape-là qui est devenue, cette partie de son manteau, qui est devenue le premier drapeau, la première couleur du drapeau français, qui a été initié, alors c'est très long, je ne vais pas le raconter maintenant, qui a été initié par Clovis. C'est Clovis qui a été le chercher la chape à Noirmoutier, quand bien un siècle après, plus d'un siècle après la mort de Martin, Saint-Martin, et qui en a fait son emblème pour se protéger justement. Et ensuite, alors après, le bleu, il y a eu toute une période de notre histoire où la France baignait dans le bleu. Les vitraux, le bleu de Prusse, etc. Et d'ailleurs, l'Europe est bleue. Donc le bleu, et alors c'était très cool parce que
c'est la couleur du manteau de la Vierge également.
Alors c'est le manteau de la couleur de la Vierge, exactement. Lorsque par exemple les fabricants de vitraux se sont aperçus, enfin l'Église surtout s'est aperçue que avant les ciels étaient noirs, la terre était noire, que ça plaisait pas trop aux fidèles, ils ont eu l'idée de faire le ciel bleu, la terre bleue, enfin de mettre du bleu partout, et c'est ce qu'on a appelé le bleu cathédrale, et le manteau de la Vierge, vous avez tout à fait raison de le signaler, est bleu. Donc et en plus, quelle est la signification du bleu? Alors vous avez des gens comme Michel Pastoureau, qui sont des grands personnages, historiens de la couleur, héraldistes, etc., sur lesquels je me suis beaucoup appuyé aussi pour pouvoir expliquer certaines choses. Le blanc, vous avez cité le blanc. Alors le blanc, oui, on dit toujours c'est la royauté. C'est d'abord c'est Jeanne d'Arc. C'est aussi La pureté, bien sûr, la pureté virginale de la France. Je vous l'ai dit, c'est Jeanne d'Arc. Et puis, c'était le pavillon de la marine. Alors, le drapeau blanc, il était ou fleurdisé ou pas, parce que la fleur de lys est aussi un symbole extrêmement complexe. Il y a des études, des thèses sur la fleur de lys. Et le rouge, bien, le rouge, on dit c'est la révolution. Non, c'est pas la révolution. C'est Blandine, c'est l'écharpe de Blandine trempée dans son sang, cette jeune chrétienne de 15 ans, que Sainte Geneviève a récupéré son écharpe, et quand Clovis est devenu roi, quand il est devenu chrétien, elle lui a offert, lui roi très chrétien, etc. Et ce rouge, c'est aussi Charlemagne, c'est aussi l'emblème de Charlemagne. Donc c'est pas uniquement Pour revenir quand même à la Révolution française, c'est là le 27 pluviaux en deux que les trois couleurs ont été rassemblées et sont devenues le symbole de la France. Il faut rappeler aussi que le rouge a été pendant une période la couleur de la bourgeoisie et pas uniquement des révolutionnaires.
La fabuleuse histoire du drapeau français de Raphaël Delpar, à l'instant à notre micro, un livre disponible aux éditions Quai de Seine. Nous espérons vous avoir offert un aperçu de cette belle fête du livre d'Autun qui s'est tenue les 14 et 15 avril dernier, une grande bibliothèque-librairie installée à l'hôtel de ville de la capitale éluenne et une manifestation haute en couleur organisée par les bénévoles de l'association Lire en pays autunois que préside Dominique Goujon. Alors, rendez-vous désormais pour la 16e édition en 2013. Mais pour l'heure, sortez vos agendas et notez quelques-uns des rendez-vous littéraires ou culturels qui vont avoir lieu dans les jours à venir dans Lyon ou en Bourgogne. Tout d'abord, dans la Nièvre, samedi 12 mai à partir de 15h au Centre culturel Romain Rolland à Clamecy, l'association Romain Rolland organise une conférence qui a pour thème Romain Rolland et Richard Strauss, conférence qui sera menée par Valère Etienne de l'Université de Grenoble. C'est ce samedi 12 mai à partir de 15h au Centre culturel Romain Rolland à Clamecy. Mardi 15 mai à 18h à Auxerre, cette fois-ci à la maison Paul Bert, la librairie Oblique et le cercle Condorcet d'Auxerre vous convient à une rencontre avec un philosophe, Olivia Gazalet, auteur de « Je t'aime à la philo » aux éditions Robert Laffont. C'est mardi 15 mai à 18h à la maison Paul Bert. Un événement important puisque mercredi 16 mai à partir de 19h, c'est au théâtre d'Auxerre, rue Joubert, les amis du théâtre investissent le théâtre et se relaient avec élèves, troupes amateurs et associations pour une lecture marathon du désormais indispensable roman de Madame de Lafayette, La Princesse de Clèves. Lecture intégrale donc mercredi 16 mai à partir de 19h. N'oubliez pas, un peu partout, dans vos villages ou dans vos villes, la 8e édition de la Nuit européenne des musées, c'est samedi 19 mai. Alors, le samedi 19 mai, je voudrais préciser, cette fois-ci c'est du côté de Saint-Sauveur-en-Puisaye, eh bien, samedi 19 mai à partir de 15h, ouverture des journées Colette, présidée cette année par Sylvie Brunel. C'est donc à la salle des fêtes, à côté du château Musée Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye. C'est Sido, cette année, maire de Colette, disparue en 1912, qui sera au centre des journées Colette, organisée par l'association du château que préside Marion Sigaud. La manifestation se déroulera sur 2 jours. Donc le samedi 19 mai se tiendront au château une exposition et une conférence sur Sido, la maire de Colette, sous la présidence de Sylvie Brunel. Un repas Colette, un repas gourmand, sera proposé sur place. On peut d'ailleurs réserver au 03 86 74 70 09. Et puis, le lendemain, dimanche 20 mai, de 9h à 18h, se tient le 15e Salon du Livre de Saint-Sauveur-en-Puisaye. Et là encore, on retrouve donc la géographe Sylvie Brunel et sa fille, Ariane Fournia. Il y aura également l'auteur chalonnaise Frédéric Mollet, auteur de Polar. Henriette Chardac, alias Hermine de Montgalet, qui présentera quelques petits spectacles de café-concert. Il y aura également Gérard Calmette, Jean-Louis Voisin, auteur très récemment d'un livre paru aux éditions de Bourgogne et qui fait grand bruit, puisque ce livre viendrait clore définitivement la polémique autour du site d'Alésia. Jean-Louis Voisin, agrégé d'histoire, auteur de Alésia, un village, une bataille, un site aux éditions de Bourgogne. Et puis le dimanche 20 mai, à partir de 15h30, une table ronde est organisée. Elle sera présidée par le journaliste Bernard Lecomte, qui fera le point sur la situation du livre papier face à l'édition numérique. Un beau débat en perspective avec la participation de Jean-François Dortier, de Sciences Humaines à Auxerre, Alain Quévez des éditions Rhubarbe et Georges Bassan, ex-libraire d'Oblique à Auxerre et actuelle présidente du Centre Régional du Livre de Bourgogne. Ce sera donc les 19 et 20 mai prochains à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Et puis le dimanche 20 mai prochain, cette fois-ci c'est du côté de Tonnerre, c'est à la salle polyvalente de Tonnerre, c'est le Salon du Livre. Salon du Livre de Tonnerre avec cette année Lucette Desvignes, invitée d'honneur. La romancière et nouvelliste viendra donc présenter son dernier recueil de nouvelles, Nouvelles à chuchoter au crépuscule, paru aux éditions de Bourgogne. Et puis je tiens à le dire, puisque je serai présent en matinée, j'animerai à partir de 11h un petit café littéraire avec Lucette Desvignes, en public bien évidemment, et nous aurons l'occasion d'évoquer notamment les personnages féminins du dernier roman de Lucette Desvignes, L'histoire de Colombe, paru en 2010 aux éditions de l'Armançon, puisque cette année, le Salon du Livre de Tonnerre a retenu comme thématique portrait de femme. La transition est toute trouvée puisque mercredi prochain, 16 mai à 21h à bord de Wagon Livre, Lucette Desvignes sera notre invitée justement pour présenter ces fameuses nouvelles à chuchoter au crépuscule. C'est mercredi prochain dans votre émission littéraire sur Radion. Je vous rappelle que vous avez possibilité de réécouter cette émission ou d'autres émissions Wagon Livre en podcast sur le site internet de Radion, www.radion.com. Un beau programme culturel à venir, en tout cas pour vous toutes et tous qui nous faites l'honneur et le plaisir de nous suivre fidèlement chaque mercredi. Du fond du cœur, merci. Merci de nous avoir suivis ce soir. Excellente fin de soirée en compagnie du programme de la nuit de Radion. À mercredi prochain. Au revoir. Thank you.